Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
MacArthur, l'enfant terrible de l'US Army, c'est le titre du dernier ouvrage de François Kersaudy paru chez Perrin. Franck Ferrand a invité l'auteur cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis ravi de parler de cette gloire de la Seconde Guerre mondiale devenue un problème dans l'après-guerre. MacArthur, l'indomptable MacArthur, aura été à ma connaissance le seul général américain qui ait jamais osé défier le président des États-Unis. Et puis, si vous êtes sage, Céline, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Pierre qui souhaitait connaître l'origine du bonnet phrygien. Mais pour l'instant, je m'intéresse plutôt à la casquette étoilée.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Public, il y a deux grands chefs de guerre américains au XXe siècle, bien entendu Eisenhower et Patton, le troisième est MacArthur. Son plus grand triomphe, MacArthur l'a vécu le vendredi 20 avril 1951. Ce jour-là, quelques 7 millions de New-Yorkais se sont massés sur le passage de son cortège. Je dis bien 7 millions. Il s'agit d'un record absolu. 40 000 membres du fameux syndicat des dockers, vous savez, ont même trouvé le moyen de se mettre en grève pour ne pas manquer le triomphe de Douglas, comme on l'appelle familièrement. Dans tout New York, il n'y a plus un seul annuaire téléphonique disponible. Tous ont été utilisés pour faire des confettis. Ça va faire 8 tonnes 3 de confettis qui seront jetés sur le passage du général. Or, et c'est tout le paradoxe de la situation, quelques jours plus tôt, ce même soldat légendaire auquel l'homme de la rue rend hommage, ce grand monsieur, vient d'être démis de ses fonctions sur ordre du président des États-Unis, fauché en pleine gloire dans des conditions uniques dans l'histoire de l'Amérique. Des conditions sur lesquelles on va revenir aujourd'hui, évidemment. Si vous voulez, dans un premier temps, c'est la genèse de cette incroyable décision de limogeage que j'aimerais retracer pour vous. D'abord, si vous n'avez pas à l'esprit l'image de Douglas MacArthur, il faut que je vous décrive un peu le personnage. Haute taille, un regard perçant assez extraordinaire, métallique, un profil d'aigle, avec cette espèce de mélange très américain, somme toute, de décontraction. Il porte toujours la chemise grande ouverte et de noblesse, avec sa casquette un peu défraîchie à l'anglaise. Vous savez, les galons dorés sont un peu râpés. Ils sont, disait-il lui-même, de ceux qui ont vécu. C'est un homme qui aurait pu faire carrière à Hollywood, disons-le. Il y a un petit côté John Wayne, d'ailleurs, chez ce MacArthur, dont l'autorité naturelle est extraordinaire, pour pas dire autorité surnaturelle. Car au-delà de ce portrait physique, il faut vous dire qu'au moral, l'homme est un volontariste pur et dur, un homme chez qui l'énergie et le dépassement de soi ont été érigés à l'état d'une raison d'être. Il y a un égocentrisme chez lui qui est tout simplement extraordinaire et qui fait peut-être tout simplement les grands hommes. Il est convaincu, par ailleurs, de la mission émancipatrice des États-Unis, de leur rôle naturel en faveur, je le cite, de l'épanouissement personnel de chaque individualité. Il aura d'ailleurs sur ce sujet des phrases restées célèbres et que jusqu'à une période très récente, je ne sais pas si c'est encore le cas, je poserai la question tout à l'heure à mon invité, mais que jusqu'à une période récente, on apprenait dans les écoles. Le charisme inouï de ce personnage ne pouvait évidemment le destiner qu'à une grande carrière. Il a jusqu'au bout des ongles la trempe d'un homme d'État, et ça depuis sa jeunesse. Je vous propose de survoler un peu cette carrière incroyable. D'abord, c'est un enfant de l'Arkansas, il faut le dire, ce jeune Douglas, donc un gars du Middle West, un cow-boy en quelque sorte, mais un cow-boy étrange, puisqu'il paraît prédestiné aux vastes horizons de l'Orient. Il va servir comme jeune officier aux Philippines, puis au Japon, en 1906, avant de devenir l'aide de camp du président Theodore Roosevelt. Vous voyez donc qu'il a circulé tôt dans les cercles du pouvoir. Il participe en France à la Première Guerre mondiale et après un long passage au sommet de l'armée des États-Unis, dont il devient le chef d'état-major en 1930, il revient aux Philippines en 1940. Vous savez, il est l'homme qui va accompagner les Philippines dans l'ultime processus d'émancipation. On peut dire à partir de là que le Pacifique et les intérêts américains dans cette vaste zone pacifique scientifiques n'ont pas de secret pour Douglas MacArthur. Or, l'homme a 61 ans au moment de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. C'est l'âge des grands commandements. Il n'y a pas vraiment à s'étonner à partir de là qu'il soit nommé patron des forces terrestres de l'archipel. Rappelez-vous que la flotte à l'époque est commandée par Nimitz. En mars 42, devant l'avancée nippone, il est contraint de quitter sa base de Corregidor pour aller s'installer dans son poste de commandement en Nouvelle-Guinée. C'est à ce moment-là qu'il a cette phrase devenue historique « I'll come back », « Je reviendrai ». C'est en quelque sorte sa devise. Ça ne doit pas être compris seulement comme une simple promesse, c'est bien un serment dans sa bouche. Or, dès la fin de 43, les Américains relèvent effectivement la tête dans le Pacifique et tandis que l'US Navy regagne des îles de l'Ouest par saut de puce, MacArthur grappille des territoires dans l'Est de la zone. Il est aux Philippines en octobre 44, il va prendre Manille en février suivant, il faudra quand même, vous le savez, deux bombes atomiques en août 45 sur Hiroshima et Nagasaki pour que les Japonais finissent par la voie de leur empereur par se déclarer vaincu. Or, au nom des États-Unis, c'est MacArthur qui vient prendre acte de leur défaite et il choisit pour atterrir l'aérodrome d'Atsugi qui est la base principale des kamikazes. Churchill dira « Parmi les actes de bravoure qui ont été accomplis au cours de cette guerre, je considère l'atterrissage de MacArthur à Atsugi comme le plus étonnant. » MacArthur organise le 2 septembre 1945 sur le pont du Missouri la signature de la capitulation du Japon. Et il a ces mots « Si nous ne parvenons pas à concevoir un système plus vaste et plus équitable pour maintenir la paix, dit-il, l'Armageddon, c'est-à-dire la mêlée finale de l'Apocalypse, sera pour demain. À moins que l'esprit ne triomphe, tout sera perdu, même la chair. » Voilà le genre de citation dont MacArthur est effrayant. Désormais, il est le chef suprême du Japon, où d'ailleurs il va faire une œuvre d'administrateur assez extraordinaire. L'empereur est maintenu sur le trône. Très vite, ses sujets lui emboîtent le pas pour rendre hommage à la magnanimité de MacArthur qui s'est imposé son pouvoir, mais sans en abuser. Le Mikado blanc, comme on le surnomme, est un conservateur dans l'âme, vous l'aurez compris, mais il n'en prend pas moins un certain nombre de mesures avant-gardistes du point de vue du Japon, notamment la suppression des privilèges de noblesse, l'extension de l'enseignement à l'ensemble de la population, la reconnaissance du droit des femmes, enfin, etc. etc. Je n'irai pas par quatre chemins. Rarement dans l'histoire, un militaire aura connu une telle gloire civile. Évidemment, la brillante réussite de MacArthur au Japon contribue à sa popularité dans le monde et a suscité quelques jalousies aux États-Unis.
La bande originale du film La Bataille de Midway sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du général MacArthur.
Comment s'étonner, à partir de tout ce que je vous ai dit, que ce soit MacArthur qui ait choisi en 1950, hein, au cours de l'été 1950, pour prendre le commandement en chef des troupes de l'ONU en Corée, évidemment. Vous savez qu'au moment de la capitulation japonaise, la Corée avait été libérée, au nord par les soviétiques, au sud par les américains, d'où ces deux Corées. Dès 1948, deux régimes ont donc vu le jour, de part et d'autre du 38e parallèle, un régime communiste au nord, un régime capitaliste au sud. Or, le 25 juin 1950, les troupes du régime communiste de la Corée du Nord vont franchir le 38e parallèle à l'assaut des territoires de la Corée du Sud. Et dès le lendemain, cette action est condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne tarde pas à appeler ses membres à soutenir la Corée du Sud. Le président Truman est tout à fait conscient de la nécessité d'endiguer autant qu'il peut la poussée communiste. Et dès le 30 juin, il décide donc d'engager en Corée les forces américaines basées au Japon, c'est-à-dire la 8e armée. Et donc, bien sûr, c'est MacArthur qui se retrouve à la tête. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que le 7 juillet, au moment de la nomination de MacArthur, les Nord-Coréens ont déjà pris Séoul. C'est vous dire que le moral des Américains, des troupes américaines, n'est pas au beau fixe. Jusqu'à l'attaque des troupes de Pyongyang, la Corée ne faisait pas partie de la zone défensive des États-Unis. Donc, si vous voulez, les États-Unis ont un peu l'impression de faire un extra, le sentiment de se trouver employé pour le principe dans une guerre qui n'est pas tout à fait la leur. MacArthur et ses subordonnés ont le plus grand mal à motiver les hommes. Or, et ça c'est une nouvelle importante, Formose intervient. Formose, c'est cette grande île que nous appelons maintenant Taïwan et où se sont repliés les nationalistes chinois anticommunistes. Faut pas oublier qu'on vient de déclarer la République populaire de Chine, la République communiste. Eh bien, tous ceux qui ne le sont pas sont donc là, autour de Chiang Kai-shek, le leader nationaliste, à Formose, et Chiang Kai-shek apporte son soutien. Le président Truman, pour ne pas se mettre la Chine populaire à dos, va décliner l'offre. Mais ça, c'est le président des États-Unis, ce n'est pas MacArthur. Et c'est là que l'indépendance du général à l'égard de la Maison-Blanche va éclater au grand jour. Contre tous les avis, MacArthur s'envole pour Formose et il va laisser Chiang Kai-shek parler d'une coopération militaire sino-américaine. Est-ce que c'est une gaffe? Est-ce que c'est un moyen de forcer la main au pouvoir civil? En tout cas, on se demande bien ce que va faire Washington. Truman, dans un premier temps, se contente de faire une mise au point très claire. Seulement là, le président a été échaudé, évidemment. Et dorénavant, il va se méfier de cet homme imprévisible, de ce MacArthur qui se prend un peu pour le calife à la place du calife. Du reste, il lui envoie sur place à Tokyo un émissaire, c'est Avril Harriman, grand diplomate, avec pour mission de remonter les bretelles de MacArthur, si je puis ainsi m'exprimer. En tout cas, de le briefer sérieusement. Ça dure 5 jours, l'entrevue, et Harriman va conclure à l'incompréhension du général en chef concernant les positions diplomatiques modérées de l'administration Truman. La situation, à partir de ce moment-là, devient très délicate. Le président américain éprouve le besoin de s'entretenir de vive voix avec ce vieux fou de MacArthur, comme il l'appelle en privé. Chacun fait la moitié du chemin, en gros. L'entrevue a lieu dans l'île de Wake. La divergence, on peut dire, des témoignages sur ce sujet est très intéressante. Et évidemment, pour les historiens, et pour François Kersaudy en particulier, c'est un sujet qui mérite d'être développé. On va y venir dans un instant. Quoi qu'il en soit, cette rencontre au sommet, cette rencontre de Wake, paraît gommer les différends entre Washington et Tokyo, si je puis dire, entre Truman et MacArthur. Elle a lieu le 15 octobre, cette rencontre. Dès le 1er novembre, le monde apprend sidéré l'intervention dans le conflit de la Chine communiste de Mao. Et de nouveau, c'est un élément majeur et qui va tout changer. Des chasseurs chinois équipés de MiG soviétiques attaquent les unités coréennes près du fleuve Yalu et immédiatement, MacArthur se met en position de riposter à l'attaque et de contenir cette poussée. Seulement le 7 novembre, sans donner d'explication bien sûr, toutes les forces communistes de Corée cessent le combat en même temps. Est-ce qu'il y aurait des divergences aussi de leur côté ? En tout cas, MacArthur en profite. Immédiatement, il lance la grande offensive générale qu'il avait méditée depuis 2 mois. Le 24 novembre, ce sont quelques 150 000 hommes qui attaquent sur un front de près de 500 km et qui effectuent une percée, on peut dire, une percée sans précédent en Corée du Nord. En réalité, il s'agissait d'un piège tendu par les Chinois et dès le 27, alors que les Américains maintenant se sont avancés très loin de leur base arrière, ils sont attaqué à revers par plus de 200 000 soldats communistes qui leur infligent des dommages terribles et les acculent au repli et même, on peut le dire, à la fuite par la mer. À ça, pour MacArthur, c'est un revers. On peut même parler d'un revers sans précédent pour lui. Et d'autant plus que le 31 décembre, les communistes lancent à leur tour une offensive de grande envergure qui ne sera stoppée par les forces du Sud que le 15 janvier 1951. Autant dire que le général américain est comme un tigre blessé et que ses prises de position vont encore se radicaliser.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour à la vie du général américain MacArthur avec vous, Franck Ferrand.
Ainsi donc, l'année 50 s'est terminée dans le sang pour l'armée américaine de MacArthur, qui agissait en Corée au nom des Nations Unies. Dans les derniers jours de l'année, le comité des chefs d'état-major au Pentagone demande au commandant en chef de lui faire connaître les mesures à prendre au cas où il faudrait, sous la poussée des Chinois, se résoudre à quitter le sol de la Corée. Vous imaginez l'échec? Mais là où MacArthur franchit une étape décisive, qui à un demi-siècle d'écart nous fait carrément froid dans le dos, c'est quand il préconise l'emploi de la toute nouvelle et toute américaine bombe atomique. L'arme thermonucléaire a été employée au Japon, où elle donnait la mesure de sa puissance diabolique. Eh bien, l'idée de la réutiliser en Chine n'est pas l'apanage de MacArthur, bien sûr, mais c'est MacArthur qui va l'émettre officiellement. Voilà ce qu'il dit, je le cite. Il faudrait prévoir, d'une part, le lancement de 30 à 50 bombes atomiques sur les bases aériennes et sur les autres points stratégiques du continent chinois. Vous imaginez bien que ça, c'est pas le genre de déclaration qui peut passer inaperçu. En fait, on n'aura pas besoin d'aller jusque-là, car les Chinois vont finalement débloquer d'eux-mêmes la situation en proposant une trêve dans les combats et l'organisation d'une conférence à 7 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique d'abord évidemment, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, l'Égypte et la Chine populaire. Le président Truman communique donc aux membres de la conférence un projet de déclaration qu'il a peaufiné, vous pouvez l'imaginer, avec son administration seulement. Voilà, j'ai envie de dire comme d'habitude, MacArthur met les pieds dans le plat. Et sans attendre la déclaration présidentielle, il publie de son côté une proclamation très ferme, en contradiction diamétrale avec celle de la Maison-Blanche. En deux mots, voilà le marché que MacArthur lance à la tête des Chinois. Ou bien vous acceptez un armistice sur le 38e parallèle, ou bien nous entrons en Mandchourie et nous rayons de la carte la Chine populaire. Vous avouerez que c'est le genre de deal qui évidemment a l'avantage d'être clair. Alors, vous voyez bien que ça devient une situation ubuesque. Washington est complètement dépassé. Que va faire le président Truman? Eh bien, une fois encore, la Maison-Blanche est embarrassée, il faut bien le dire. Là-bas, on est furieux, c'est certain, mais on est encore plus gêné aux entournures. On pourrait penser, bien sûr, que le président Truman est désormais fondé à mettre fin aux fonctions de MacArthur. En fait, il décide d'attendre encore un peu. Le président patiente jusqu'au 5 avril 1951. Et là, mais là seulement, il craque. Alors que s'est-il passé? Eh bien, le sénateur républicain Joseph Martin a été jusqu'à publier une lettre que lui a adressée MacArthur, une lettre pleine d'amertume et d'injures ouvertes à l'égard de la Maison-Blanche et de ses politicards louvoyants. Vous voyez un petit peu le genre. Les termes de MacArthur sont en plusieurs endroits insultants. Cette fois, le président se dit que trop c'est trop, Truman en a assez, il consulte plusieurs fois son administration, il obtient peu à peu un ralliement complet de ses conseillers et donc le 9 avril 1951, une date importante dans l'histoire récente des États-Unis, il relève solennellement le général Douglas MacArthur de tous ses commandements. Le grand chef de guerre sera remplacé sur place par le général Ridgway, à qui reviendra la tâche délicate de mettre un terme honorable à cette espèce de guerre interminable en Corée. Alors, on a du mal évidemment à se faire une idée de la vague d'indignation qui secoue les États-Unis à cette annonce. Lors de son retour sur le sol national, MacArthur est accueilli en demi-dieu par une population complètement charmée par son bon sens, par son humanité, par son énergie à toute épreuve et, il faut bien le dire, par son anticommunisme radical. N'oublions pas que la guerre froide à cette époque est en train de naître et qu'elle entraîne la flambée macartisme que vous connaissez. Devant le poste de télévision qui, à la même époque, commence à envahir les foyers américains, c'est tout le pays qui sanglote en écoutant le général déclamer devant le Congrès des États-Unis les mots suivants. Je le cite. « Je me souviens encore du refrain d'une des chansons les plus populaires dans les casernes qui proclame fièrement que les vieux soldats ne meurent jamais, mais s'effacent et disparaissent. » semblable au vieux soldat de ce refrain. « Je tourne maintenant la dernière page de ma carrière militaire. Je m'efface et disparais en vieux soldat qui a fait de son mieux pour remplir sa mission à la lumière que Dieu lui a donnée pour éclairer son devoir. Adieu !» Et sur le coup, l'émotion est intense. Seulement avec le recul, nous sommes sans doute mieux à même de juger des positions respectives. Sans doute, le général MacArthur avait-il raison en partie sur le fond. C'est ce que nous allons essayer de voir avec François Kersaudy dans un instant. Lui réclamait que les buts militaires fixés à son action soient la victoire et non pas la négociation. Et sans doute avait-il compris l'importance du mouvement communiste et pris la mesure de la menace que tout ça faisait, que cette espèce de poussée faisait peser sur la sphère d'influence américaine. Mais les solutions qu'il proposait, en recourant notamment à la bombe atomique, ces solutions manquaient, c'est le moins qu'on puisse dire, manquaient de mesures pour une opération militaire sectorisée. Surtout, et ça ne souffre pas d'excuses me semble-t-il, en prétendant s'émanciper du pouvoir civil, en rompant la tradition de subordination du militaire au politique, MacArthur ouvrait la voie à d'incroyables dérives. J'ai eu l'occasion de dire déjà à ce micro à quel point l'histoire des États-Unis d'Amérique était fondée sur l'armée, sur un certain nombre de conquêtes et de batailles militaires, mais là on allait véritablement très loin et on peut considérer que le président Truman, avec sans doute beaucoup moins de grandeur d'âme, beaucoup moins de classe que MacArthur, avait pour lui le droit et la raison. Est-ce qu'on peut l'estimer ? Après tout, ça n'est pas à moi de répondre, c'est à mon invité. Bonjour François Kersaudy.
Bonjour.
Vous avez vu que j'ai laissé en suspens un certain nombre de questions. Il y en a bien d'autres que j'ai à vous poser dans la demi-heure qui nous reste maintenant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
De l'indicatif de la série télé Les Têtes Brûlées sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du général MacArthur, avec votre invité, l'historien François Kersaudy, ancien professeur à l'Université Paris 1, auteur de MacArthur, l'enfant terrible de l'US Army aux éditions Perrin, dans la collection Maître de guerre.
Alors François Kersaudy, disons-le tout de suite, il y a un quart de siècle, quand moi j'étais adolescent, on était encore dans la fin de la guerre froide et la figure de MacArthur était très présente. Je me rappelle qu'on apprenait, enfin moi en tout cas j'avais appris un certain nombre de passages de ses lettres, etc. On trouvait ça exaltant. Aujourd'hui le personnage a presque disparu de nos radars, on ne parle plus de MacArthur. Vous pouvez expliquer d'où vient cette relégation ?
Il y a plusieurs raisons. On en parle toujours aux États-Unis, bien entendu.
Je parle plutôt de la France, vous avez raison.
En France, on a tendance à considérer que tout s'est passé en Europe, parce que c'est tout près de chez nous, et que ce qui s'est passé dans le Pacifique, c'est un petit peu un détail de l'histoire de la guerre en Europe de l'Ouest. Or, pas du tout. La guerre s'est passée sur deux théâtres, et elle a été encore plus féroce dans le Pacifique. Parce qu'il faut bien voir qu'il y avait la guerre partout, en Chine en particulier, avec des millions et des millions de victimes, toute l'Asie du Sud-Est jusqu'aux frontières de l'Inde, tout le Pacifique jusqu'en Australie, Nouvelle-Guinée, toutes les îles, on n'est pas arrivé jusqu'en Nouvelle-Calédonie, mais les Japonais n'en étaient pas loin. Et donc, c'est tout un pan de la guerre, c'est pas par hasard que les deux bombes atomiques ont été larguées sur le Japon, c'était un théâtre vital, c'est là que les Américains ont été attaqués. C'est là qu'on leur a détruit une bonne partie de leur flotte. C'est au moment où les États-Unis avaient la 16e armée du monde après l'armée roumaine. Donc ça ne représentait pas grand-chose. Et les Japonais étaient très sûrs de leur fait quand ils se sont lancés à la conquête de l'Asie et qu'ils avaient éliminé ou pensaient avoir éliminé la flotte américaine. Bon, en fait, ils avaient marché sur la queue du tigre et ça l'a réveillé en sursaut.
On va y venir tout à l'heure. Évidemment, on va revenir sur l'ensemble de la vie et de la carrière de Douglas MacArthur. Mais tout de suite, la question qui brûle les lèvres, est-ce que très sérieusement, il avait bien l'intention de jeter 50 à 60 bombes atomiques sur la Chine ?
Non. Non. Non.
Pourquoi l'écrit-il ?
Non. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'ils ne s'en sont pas vantés, c'est qu'à la fin de 1950, ce sont les chefs d'état-major américains eux-mêmes qui ont envisagé cette possibilité. MacArthur, lui, ce n'est pas ça qu'il demandait. Il demandait qu'on bombarde, de façon conventionnelle, les bases de départ chinoises en Mandchourie et surtout qu'on bombarde les ponts. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était trop tard, parce que les Chinois s'étaient déjà prépositionnés en Corée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la dimension de MacArthur et pourquoi MacArthur est depuis longtemps considéré comme un héros. Alors, pourquoi il est considéré comme un héros en Corée? C'est très simple, parce qu'il a entièrement éliminé l'armée nord-coréenne.
Mais oui, quand même.
À l'été de 1950, les Nord-Coréens, non seulement ils sont à Séoul, mais en plus, ils ont dépassé Séoul et ils ont acculé ce qui restait, les débris de l'armée sud-coréenne, dans un tout petit périmètre à l'extrême sud de la péninsule coréenne. Donc, les Américains, ils n'ont que deux divisions au Japon, qui ne sont pas vraiment en état de combattre, qu'il faut amener en catastrophe dans ce fameux périmètre de Taïgu. Et là, il ne reste pas grand-chose à faire. Mais là-dessus arrive MacArthur, qui regarde un petit peu tout cela avec un œil d'aigle, qui d'un seul coup voit ce qu'il faut faire. Il dit, bon, voilà, le point sensible, c'est Incheon. Incheon, c'est un avant-port de Séoul. Sauf qu'il voit que c'est là l'endroit vulnérable. Mais on lui dit, c'est pas possible, parce qu'il y a un gigantesque mur, il y a des marais absolument invraisemblables, on pourra jamais débarquer là. Et MacArthur dit, c'est justement parce qu'on pense qu'on pourra pas le faire, qu'il faut le faire.
Toujours cette idée du triomphe de la volonté, hein, chez lui.
Du triomphe de la volonté, et puis surtout d'une stratégie qu'il a mise au point. C'est un génie stratégique, hein, mais il est pas né comme ça. Il est devenu un génie stratégique progressivement. Et là, il voit l'endroit faible et dégarni de l'ennemi. Mais ça, c'est ce qu'il a fait pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il faut vous souvenir qu'il a 70 ans, hein, donc
oui,
il est quand même... Et à 70 ans, il a une expérience énorme qu'il n'a pas oublié du tout de ce qui se passait entre 1942 et 1945, où il a fait des choses extraordinaires. Et je vais vous expliquer pourquoi on s'en est pas souvenu. Alors, donc, pour finir ça, le débarquement s'effectue à Incheon. On prend au piège les armées nord-coréennes qui sont descendues dans la péninsule, c'est-à-dire qu'on arrive carrément sur leurs arrières et on coupe entièrement leur voie de ravitaillement. Donc, ils n'ont plus qu'à se rendre. Et donc, il n'y a plus, pratiquement, il n'y a plus d'armée nord-coréenne. Il y en a quelques-uns qui arrivent quand même à s'échapper vers le nord. Mais enfin, en gros, on en a capturé pratiquement 130 000 dans la nasse par ce débarquement qui fait pratiquement zéro mort, puisqu'ils ne sont pas attendus. Donc, ils débarquent. Je crois qu'il y en a un qui se fait tuer parce qu'il tombe d'un mur. Mais sinon, c'est un débarquement parfait. Tout fonctionne, alors que l'endroit est atroce. Il y a des sables mouvants, il y a des marais invraisemblables, il y a un énorme mur, il y a une île fortifiée. Tout ça fait que, normalement, ça aurait dû échouer. Mais
ces réussites tactiques et stratégiques expliquent le sentiment qu'a pu avoir Eisenhower d'un décalage entre ce que lui vivait sur place et ce que les responsables politiques vivaient, eux, à Washington. Mais ce qui est assez étonnant dans ce que je viens de raconter, c'est le décalage de plus en plus grand entre la politique officielle de la Maison-Blanche, et donc du Pentagone, et puis ce que MacArthur a l'intention de mettre en avant lui-même. Est-ce qu'on peut parler d'une diarchie au sommet du commandement américain pendant quelques mois?
Oui et non, parce que en fait, les véritables chefs de MacArthur, ce sont les chefs d'état-major. Or, les chefs d'état-major sont très intimidés par MacArthur.
Oui, c'est ça.
Tout le monde est intimidé par MacArthur, y compris, vous parliez d'Eisenhower. Vous savez, les petites causes ont souvent de très grands effets. Pourquoi est-ce que Eisenhower a dirigé le débarquement de Normandie? Il n'aurait pas dû, ça devait être Marshall. Simplement, Roosevelt a nommé Eisenhower parce que s'il l'avait nommé Marshall, c'est Eisenhower qui aurait été chef d'état-major. Or, il fallait à Washington un chef d'état-major qui soit capable de tenir tête au redoutable MacArthur dans le Pacifique. Et Roosevelt ne se sentait pas capable de le faire tout seul. Et il savait que Eisenhower en serait incapable. Et pourquoi est-ce qu'Eisenhower en serait incapable? Parce que Eisenhower a été le subordonné de MacArthur aux Philippines et même avant, quand MacArthur était chef d'état-major.
C'est incroyable ce jeu de domino que vous nous décrivez. C'est-à-dire, si je résume, que le président Roosevelt ne nomme pas pour le débarquement de Normandie Marshall parce qu'il a besoin de Marshall pour tenir tête à MacArthur. Il sait qu'Eisenhower ne le ferait pas.
Exactement,
c'est incroyable. Hein, comme...
Voilà. Eisenhower a un très fort complexe d'infériorité par rapport à MacArthur parce que tout simplement, il a été, on pourrait presque dire, son principal domestique quand MacArthur était chef d'état-major, donc entre 30 et 35.
En tout cas,
et encore ensuite aux Philippines. Oui. MacArthur disait, c'est mon meilleur rédacteur. Vous voyez, bon, ça veut dire ce que ça veut dire.
Mon meilleur scribe.
Mon meilleur scribe, c'était ça. Eisenhower était major, il était commandant, ensuite il a été lieutenant-colonel. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, non seulement MacArthur était général, mais en plus, général à 3 étoiles, puis à 4 étoiles, et en plus, il était maréchal philippin. Donc, vous voyez, il y avait toujours ce complexe d'infériorité d'Eisenhower par rapport à MacArthur.
On peut se demander pourquoi MacArthur, avec les qualités exceptionnelles et le charisme absolument inouï dont il disposait, n'a pas fait lui-même une carrière politique. Il aurait pu être un président des États-Unis élu triomphalement.
Non. Non, Roosevelt, qui était un animal politique, un homme à élection, disait le général de Gaulle, Roosevelt lui avait dit, dès le début des années 30, ils étaient cousins, un cousin très éloigné, mais enfin MacArthur était à la fois cousin éloigné de Roosevelt et de Churchill. Ils avaient une
ancêtre. Et de l'autre président Roosevelt aussi,
et de l'autre président,
dont il avait été l'aide de camp.
Theodore, oui, absolument. Et Roosevelt avait dit à MacArthur, Douglas, vous êtes notre meilleur général, mais vous seriez notre plus mauvais politicien. Et c'est vrai, MacArthur était un mauvais politicien. La politique, ce n'était pas du tout son domaine.
Parce qu'il ne connaissait pas l'art du compromis, notamment, c'est ça ?
Entre autres. Et puis, il n'avait pas de chance. Et puis, il ne savait pas financer. Il disait les choses trop franchement. Il avait tout pour faire un mauvais politicien américain.
On a l'impression d'un albatros, d'une intelligence trop grande pour pouvoir se plier à un certain nombre de contraintes et d'habitudes.
Oui, et puis depuis sa naissance, il est né au son du clairon. Depuis sa naissance, il est militaire. Donc, il voit toutes les choses sous leur aspect militaire. C'est pas un mauvais diplomate du tout, notamment en Asie, on le verra au Japon, mais c'est pas un bon politicien. Et à chaque fois qu'on a essayé de le mettre dans la course à la politique pour des élections présidentielles, de sonder les gens, etc., à chaque fois dans les primaires. À chaque fois, il arrivait 3e, 4e, 5e. Donc, il a fini par renoncer même à se présenter, parce qu'il est un homme très orgueilleux. Donc, il veut pas être battu.
Entre nous, c'est pas un petit morceau à avaler pour le petit président Truman. Je dis petit président Truman non seulement par la taille, mais enfin, évidemment, il succédait à l'immense Roosevelt, etc. On pouvait se poser des questions sur son autorité. C'est lui qui, quand même, va donner l'ordre de larguer les 2 bombes atomiques sur le Japon. Et c'est lui qui va mettre un terme à la carrière de MacArthur. C'est incroyable, ça.
Oui, mais il ne l'a fait que parce qu'il avait l'appui de l'état-major dans son ensemble. Et l'état-major a mis du temps à donner son autorisation, tout simplement parce qu'eux-mêmes étaient des gens très impressionnés par MacArthur. Ce qui est normal, certains ont servi sous ses ordres, d'autres ne l'ont pas fait, mais savaient que c'était le seul, avec Nimitz, c'était le seul stratège véritable qu'avaient eu les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a fallu du temps pour persuader. Truman n'a agi que quand il a eu l'aval de l'ensemble des chefs d'état-major. Sinon, il ne l'aurait pas fait, parce qu'il n'aurait pas pesé très lourd devant ce héros qui était MacArthur. Maintenant, il faut dire pourquoi MacArthur a été un héros pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, mais ça, on va le dire. Avant cela, juste un mot sur l'erreur suprême de MacArthur. Ce que vous nous dites, c'est que c'était un homme du partiel, il avait le commandement de sa région et qu'il n'avait pas la vision d'ensemble de la stratégie américaine.
Voilà, c'est ce qui a été révélé par la commission d'enquête du Sénat peu après son arrivée triomphale. Il a été invité à déposer, les sénateurs lui ont posé des questions, et les questions qu'il a déposées étaient les suivantes. Général, que feriez-vous si, au même moment, nous étions attaqués par les soviétiques en Europe ? Je ne sais pas, ça n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est l'Asie, le Pacifique. Général, savez-vous combien nous avons de bombes atomiques ? Je n'en sais rien, ce n'est pas de ma responsabilité. Général, savez-vous combien les soviétiques ont de bombes atomiques ? Je n'en ai aucune idée, je vous ai déjà dit, mon domaine c'est le Pacifique, etc. Et à ce moment-là, le sénateur lui dit, ben, général, voilà exactement ce que nous voulions vous faire dire. La politique globale vous échappe. Le président et les chefs d'état-major sont là pour s'occuper de l'ensemble de la stratégie où tout est interdépendant. Et là, malheureusement, ça, vous ne l'avez pas pris en compte de là où vous étiez, c'est-à-dire depuis Tokyo et Séoul.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est le général MacArthur qui est au cœur de l'histoire et vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité, l'historien François Kersaudy, ancien professeur à l'Université Paris 1, auteur de MacArthur, l'enfant terrible de l'US Army aux éditions Perrin.
Si vous le permettez, François Kersaudy, j'aimerais qu'on reprenne les choses maintenant au départ, à la naissance de ce Douglas MacArthur, un certain 26 janvier 1880. Il naît dans, il est tombé dans la marmite quand il était petit, hein. Il naît dans le sein même de l'armée, ce Douglas.
Oui. Il est né, si vous voulez, dans un fort, dans l'Arkansas. Il va être trimballé de fort en fort. Pourquoi ? Parce que son père, lui-même, non seulement est un militaire, mais c'est un héros aussi, un héros de la guerre civile.
Et son grand-père, et son arrière-grand-père, tout le monde est militaire.
C'est une famille de militaires. Et le père, on l'avait appelé le colonel adolescent, parce que après ses actes héroïques pendant la guerre civile, ou même pendant, à 19 ans, il a été nommé colonel. Il n'y a pas beaucoup de militaires américains qui sont colonels à 19 ans, je crois qu'il n'y en a aucun. Et donc, évidemment, par la suite, le père avait une certaine autorité, une certaine notoriété, et il y avait une tradition militaire dans la famille. Et comme beaucoup de militaires, MacArthur n'envisageait pas une seconde, même à l'âge de 2 ans ou de 3 ans, d'être autre chose qu'un militaire, et pas n'importe quel militaire, évidemment.
Ouais. Et pour cause, puisqu'il est d'une intelligence tout à fait extraordinaire.
Oui.
Et ce qui va parfois de pair avec cette grande intelligence, il développe très tôt un véritable complexe de supériorité. Quand on vous lit, c'est ça qui vient à l'esprit constamment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet homme-là est convaincu d'être nettement plus intelligent que tout le monde. Ce qui ne va pas faciliter sa vie, évidemment, alors, ni sa carrière.
Oui, alors c'est vrai, à l'académie militaire à West Point, il sort avec le 3e meilleur classement de toute l'histoire de l'Académie militaire. 2540 points sur 2570, enfin ouais, quelque là, chose d'absolument fou, terrifiant. Oui. Il a effectivement un complexe de supériorité, il est mégalomane, il est paranoïaque, il est égocentrique à un point qui est difficile d'imaginer. sa mère, c'est son dieu, elle le guide. D'ailleurs, pendant qu'il est à West Point pendant 3 ans, sa mère est dans l'hôtel en face pour le surveiller. Donc il faut voir un petit peu à quoi ressemble cet homme-là. En même temps, il est affectueux, il est généreux, il a aussi beaucoup de qualités et il peut charmer absolument n'importe qui pour peu qu'il s'en donne la peine.
Je parlais de John Wayne tout à l'heure parce qu'il y a une ressemblance physique qui est assez certaine, mais il y a un petit côté Reagan aussi, un petit peu dans le côté séduisant comme ça. Tous ces acteurs d'Hollywood, en quelque sorte, qui savaient regarder, qui savaient parler, il possédait ça, lui, jusqu'au bout des ongles et il va en faire usage dans les débuts de sa carrière.
Oui, oui. Si on peut dire effectivement avec Roosevelt qu'il aurait fait un très mauvais politicien, par contre il aurait fait un très bon acteur. C'est un acteur né. Hein. Alors, la carrière se passe, alors, il est dans le génie, mais l'ingénierie, ça l'intéresse modérément. Lui, ce qu'il veut, c'est commander des troupes. Son père est attaché militaire à Tokyo, donc dès 1905, il a le privilège non seulement d'aller à Tokyo et de rencontrer déjà les Japonais, alors qu'il a 25 ans, et ensuite, un an après, de faire un grand tour de l'Asie avec son père. Et là, c'est toute l'Asie du Sud-Est qu'il voit, et il voit tous les gens qui comptent, et même beaucoup de gens qui ne comptent pas, et il se fait une idée assez précise, et très rare pour un Américain, de ce qu'est l'Asie des années 20.
C'est très important.
Et c'est
sûr,
très, très important, parce qu'il va saisir intuitivement la mentalité asiatique, particulièrement celle des Philippins et celle des Japonais. Et ça va naturellement lui servir énormément.
Énormément dans les postes qui seront les siens à la fin de sa carrière. On a oublié de dire qu'il a quand même donc combattu pendant la Grande Guerre en France. Hein.
Oui, oui. Donc là, on est dans les années 20, mais effectivement, il faut déjà voir qu'il a servi, non seulement il a servi, mais il a organisé une division faite à partir de la garde nationale de 26 États. Donc c'est lui qui a monté ça. Normalement, le président ne voulait pas qu'on, ni le ministre de la guerre d'ailleurs, ne voulait pas qu'on envoie la garde nationale en France. Lui a dit si, il faut. Mais comme chaque État était jaloux de ses prérogatives, eh bien on a pris la garde nationale de 26 États différents. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée la Rainbow Division, c'est la division arc-en-ciel, qui a combattu en France. Comme le général qui commandait cette division était un petit peu vieux et même malade, c'est MacArthur qui l'a remplacé en tant que colonel et qui finalement a été nommé général de brigade déjà en France. Alors il a participé pratiquement à toutes les campagnes américaines entre 1917 et 1918. On le voit absolument partout. le saillant de Saint-Mihiel. Et il est totalement, il sera toute sa vie d'ailleurs, totalement inconscient du danger.
S'il était absolument sûr de sa bonne étoile.
Oui, oui, oui. Il revient avec les manches trouées par les balles. Il se joint aux nettoyeurs de tranchées français.
Jamais blessé.
Armé d'une bâtine. Jamais. Par contre, il a été gazé 2 fois parce qu'il refusait de mettre un masque à gaz. Il était un petit peu de l'inconscience. Mais surtout, un général qui charge à la tête de ses troupes pendant la Première Guerre mondiale,
oui,
c'est très rare.
C'est rare pour
Alors, lui,
être
il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 10 fois.
Ouais.
Donc c'est quand même très très étonnant.
Il est un génie, nous disiez-vous, de la stratégie. Sauf qu'en vous lisant, on se rend compte que c'est un génie qui se forge peu à peu. Exactement. On a l'impression qu'à un moment, il y a un basculement, il y a comme un déclic. Et à partir de ce déclic, alors là, tout lui réussit.
Oui, il y a une très mauvaise période, une période où il est mauvais, il faut le dire. Alors, bon, déjà, quand il revient de France, il a un certain prestige parce qu'il est général de brigade et parce qu'on lui laisse son grade étant donné qu'il devient superintendant, c'est-à-dire en fait directeur de West Point. Ensuite, il passe 4 ans. Après, il va diriger le comité olympique à Amsterdam en 28. Hein. Et puis, parce qu'il est déjà connu, parce qu'il a le bon âge, parce qu'il est encore jeune, donc, et parce qu'il a déjà une réputation bien ancrée, en 1930, on le nomme chef d'état-major. Et entre 1930 et 1935, c'est un chef d'état-major qui fait parler de lui, en bien comme en mal d'ailleurs, mais en tout cas qui fait beaucoup parler de lui. Et puis, lorsque Roosevelt finalement le congédie, il va aux Philippines et il prend sur lui d'assurer la défense des Philippines, ce qui n'est pas évident. Les Philippines deviennent un Commonwealth, donc disons autonome par rapport aux États-Unis, et on se doute que les Japonais ont l'œil dessus et qu'ils vont finir par l'envahir. Donc lui, il prend sur lui en 5 ans de mettre les îles en état de défense. Sauf qu'il n'a pas les moyens, on ne les lui donne pas. Il s'imagine qu'il va lever 100 000 hommes. Bon, il y en a 20 000 qui sont en état de combattre, pas les autres. Il y a 7 000 îles à défendre, donc vous pouvez imaginer un peu. L'armement date de la Première Guerre. Ça se conserve très mal sous le climat philippin. Donc tout ça fait que quand les Japonais débarquent, sa stratégie de défendre toutes les îles sur les plages s'avère complètement décalée. Ça ne marche pas. Les Japonais débarquent, le repoussent vers la presqu'île de Bataan. Alors là, il y a quand même un petit trait de génie. Ce qui est le plus difficile chez un militaire, c'est de faire une retraite en bon ordre. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Donc il arrive à retirer tous ses soldats. Donc il répare un petit peu sa gaffe initiale. Toute son aviation a été détruite au sol. C'est un désastre absolu. Et par contre, il réussit à faire évacuer Manille, à faire évacuer tout le nord de l'île de Luçon et à concentrer ses hommes dans la presqu'île de Bataan et l'île fortifiée de Corregidor. Et là, pendant 5 mois en tout, ces hommes vont tenir tête aux Japonais dans un endroit qui est horrible. C'est infesté de malaria, de scorpions, de serpents. Et en plus, ils ont très peu à manger. Donc il faut qu'ils mangent des singes et des lézards. Et malgré tout, ils tiennent tête à l'armée japonaise pendant tout ce temps-là. C'est là que MacArthur se forge sa première réputation de héros, donc dans les premiers mois de 1942, parce qu'il tient tête, avec très peu de moyens. Et puis finalement, on lui ordonne d'aller en Australie. Lui hésite, parce qu'il ne craint pas la mort. C'est quelqu'un qui aime le danger, qui ne craint pas la mort. Il a ce point commun avec Churchill et quelques autres. Il dédaigne de se mettre à couvert, toujours. Quand il y a des bombardements, il sort pour les observer. Ça gicle tout autour. Bon, ça le gêne pas. Bon. Et malgré tout, il voudrait rester pour mener la guérilla aux Philippines, mais il a un ordre du président et il est obligé d'obéir. Et donc, il va en Australie.
J'aime bien quand vous dites qu'il est obligé d'obéir, on sent que ça n'a rien de naturel, évidemment.
D'ailleurs, c'est parce que son état-major l'y oblige, sinon il aurait désobéi.
Si l'on devait établir les grands apports de MacArthur à la stratégie, quels sont ses points forts?
Alors,
est-ce qu'il existe une stratégie MacArthurienne? Voilà la question.
Absolument, qui lui est venue petit à petit. C'est un homme extraordinairement intelligent, on l'a dit, mais surtout qui sait s'adapter. Au départ, il n'a jamais vraiment été économe de ses troupes. Il faut bien reconnaître, de la vie de ses soldats, ce n'est pas ce qu'il caractérise pendant la Première Guerre, ce n'est pas non plus ce qu'il caractérise aux Philippines, il faut bien le dire. Quand il arrive en Australie, là par contre, sa stratégie, c'est bon, on ne va pas attendre que les Japonais débarquent en Australie, c'est en Nouvelle-Guinée qu'il faut les arrêter. Alors au début, c'est-à-dire les derniers mois de 42 et le premier mois de 43, dans le nord de la Nouvelle-Guinée, on reprend des positions japonaises, des endroits qui s'appellent Buna et Gona, mais ça coûte horriblement cher. C'est un carnage. Donc les Japonais sont vaincus, effectivement, mais le prix à payer est tellement atroce que MacArthur réfléchit et dit « Bon, des victoires comme ça, en fait, c'est des défaites. » Donc qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser ce stade-là? On va prendre une nouvelle stratégie. On va débarquer partout où on n'est pas attendu, partout où l'ennemi ne se trouve pas. Et donc, avec un but principal, évidemment, C'est les Philippines, vous vous souvenez, il avait dit en arrivant en Australie « I shall return », eh bien voilà, il va revenir, mais pour ça, il faut qu'il passe sur les Japonais et qu'il marche dessus sur toute l'ampleur de la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Et là, donc, son chef-d'œuvre, ces deux chefs-d'œuvre, ce sont des débarquements.
Ce qu'on appelle des opérations combinées.
Alors, ce sont les opérations combinées. Il apprend petit à petit à se servir de l'aviation qu'il méprisait avant et à combiner ça, effectivement, avec la marine qu'il méprisait aussi mais qu'il ne méprise plus et les forces terrestres. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans la jungle parce qu'on ne sera jamais meilleur que les Japonais et que donc, il faut les prendre par surprise. Il faut attaquer là où ils ne sont pas, s'installer, mettre des champs d'aviation et après écraser tous les centres de résistance. Alors ça, c'est son premier génie, c'est d'attaquer les points faibles de l'ennemi. Et son deuxième génie, c'est de le faire à un coût minimal. C'est pour ça aussi qu'on l'a oublié. Parce que si vous regardez l'histoire, les grandes batailles, depuis Austerlitz jusqu'à Stalingrad, en passant par Verdun, et Solferino, ce sont les plus gigantesques boucheries que vous puissiez imaginer. Oui. Or, quels sont les chefs-d'œuvre de MacArthur? C'est le débarquement à Leyte. Débarquement à Leyte, c'est la même chose que le débarquement de Normandie, sauf que la puissance de feu est plus grande. Octobre 1944. Combien il y a de morts? 400.
Ses grands succès à lui sont des succès qui sont assez économes en vies humaines. En
400
fait.
Morts.
Et oui, voilà.
400 morts. Alors, c'est toute la reconquête des Philippines est à l'aide.
Oui, parce qu'il va dans les endroits où il n'y a personne.
Où il n'y a personne, donc évidemment. Et il s'installe là.
De façon
après,
hyper organisée.
Il écrase l'ennemi. L'autre chef-d'œuvre, c'est le débarquement à Hollandia 6 mois avant, en Nouvelle-Guinée. C'est 500 kilomètres derrière les lignes ennemies. C'est un énorme centre d'approvisionnement, mais c'est là qu'on ne l'attend pas.
En fait, il y a quelque chose d'oriental. Il y a un petit peu quelque chose de Sun Tzu dans cette façon de procéder.
Oui, oui, oui. Ben, il a vu que ça fonctionnait, donc il l'adopte. Alors, 43 morts. Comment voulez-vous qu'on parle d'une victoire si extraordinaire soit-elle où il y a 43 morts?
Certains ont comparé MacArthur au meilleur Bonaparte, oui, mais avec cette énorme différence quand même, parce que Bonaparte, lui, n'était pas du tout économe en vie humaine.
Du tout.
C'est une énorme différence.
Du tout. Et ce qui a un petit peu couronné sa carrière, évidemment, c'est l'occupation du Japon, parce que comme vous l'avez dit au début, ce qu'il a fait au Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il est resté extraordinairement populaire au Japon. Vous avez des quantités d'enfants qui s'appellent encore Makasa. Qu'est-ce que c'est que Makasa? C'est la prononciation japonaise de MacArthur. Avec l'empereur, c'était le dieu vivant, MacArthur.
C'est étonnant, la carrière de cet homme. Je renvoie nos auditeurs à votre magnifique biographie, très richement illustrée, il faut le dire, avec une quantité de clichés, dont beaucoup d'inédits du reste. François Kersaudi, MacArthur, l'enfant terrible de l'US Army, c'est édité chez Perrin dans la collection Maître de guerre. Merci beaucoup.
Repin au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Pierre, qui nous envoie sa question via le site internet d'Europe 1. Pierre aimerait connaître l'origine du bonnet phrygien.
Oui, alors ce bonnet phrygien, comme son nom l'indique, il vient de Phrygie. La Phrygie, c'est situé en Asie mineure. Vous savez, c'est à l'ouest de la Cappadoce. Actuellement, ce serait en Turquie. Et le peuple phrygien était censé porter cette coiffure depuis vraiment très longtemps. Quand on représente notamment Paris, vous savez, Paris, le frère d'Hector, le ravisseur d'Hélène dans la mythologie grecque, eh bien, généralement, on le représente coiffé d'un bonnet phrygien parce qu'il était de Troie et qu'un certain nombre des grandes figures troyennes étaient coiffées de ce bonnet phrygien. Alors comment est-ce que ce bonnet antique d'Asie mineure devient le symbole de la République? Eh bien parce que à l'époque romaine, ce bonnet phrygien faisait penser au bonnet conique que portaient les esclaves affranchis. Et donc, d'une manière générale, on s'était habitué dans la représentation traditionnelle à représenter les affranchis et donc les personnes éprises de liberté, le peuple en conquête de liberté, avec cette espèce de bonnet pointu qu'on confondait plus ou moins avec le bonnet phrygien. En 1789, on va donc adopter cette coiffure dans les rangs des sans-culottes. Ça va devenir le symbole de l'esprit révolutionnaire. On ne l'appelle d'ailleurs pas du tout bonnet phrygien à l'époque. On dit le bonnet de la liberté, on parle de bonnet rouge, etc. C'est seulement au 19e siècle qu'on appellera ça le bonnet phrygien. Et puis, peu à peu, en 1791-1792, ça devient la coiffure quasi obligatoire des révolutionnaires. Et rappelez-vous qu'en juin 1792, quand le peuple envahit les Tuileries, on va forcer plus ou moins Louis XVI à porter à son tour le bonnet phrygien. Réaction de Condorcet, cette couronne en vaut bien une autre et Marc Aurèle ne l'aurait pas dédaigné.